qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Robert Pilote.
Certains médias rapportent une information, et celle-là, bon, je la tire de l'agence QMI. Le coût des futurs navires de combat du Canada qui continue de monter. Le directeur parlementaire du budget a évalué que la facture des navires de combat en question va dépasser, c'est un dépassement, d'au moins 10 milliards de dollars, les estimations du ministère de la Défense. Hey, c'est pas des pinottes, là. Le rapport qui a été publié aujourd'hui raconte que le programme des navires de combat va coûter 69,8 milliards de dollars. On fait un chiffron, là, 70 milliards de dollars sur 26 ans pour faire flotter du métal sur les océans. Ottawa évalue plutôt que la facture va oscillerait entre 56 et 60 milliards de dollars. Initialement, le programme qui avait été lancé en 2008 devait coûter 26 milliards. Le document en question vise à fournir le programme en question vise à fournir 15 nouveaux navires de guerre au Canada. En février dernier, le gouvernement fédéral a annoncé avoir choisi un modèle offert par l'entreprise Lockheed Martin. Les bateaux seront construits par Irving à Halifax. C'est assez incroyable. J'en viens pas. Je suis soufflé, carrément soufflé. Puis sais-tu parce qu'on fait construire des boats comme ça, là, des beaux bateaux, 15 beaux bateaux, que si jamais il y a l'invasion, les Chinois, mettons, qui décident de nous envahir, ou les Russes par le Nord qui décident de venir au Canada, tu penses-tu qu'on va être capable d'assurer?
Hein, je me demande vraiment si présentement on en a besoin d'autant que ça.
On a peut-être besoin de bateaux, mais des bateaux de guerre. Je sais qu'il y a des alliances avec les Américains. Je sais qu'il y a des enjeux maintenant territoriaux qui est lié à l'ouverture des mers du Nord maintenant en raison de la fonte des glaces. Oui, il y a des enjeux, mais écoute, on a les moyens de se payer ça. Mais de faire des projections dans le temps, de signer le document en disant « Bon, ben parfait, on se commande 15 bateaux sur 26 ans, ça coûte 56 milliards, puis de te tromper en quelques mois seulement ou en quelques années seulement de 10 milliards
de
dollars.
C'est pas des peanuts, là.
Non,
c'est 10 milliards de dollars, c'est vraiment beaucoup d'argent.
C'est du sérieux. Est-ce que Steve est avec nous autres maintenant? Steve est là. Écoute, je vais l'engager comme chroniqueur régulier. C'est vrai, non, mais beaucoup d'actualités touchent à son domaine de compétences. Steve Waterhouse, bonjour.
Bonjour, Robert.
Écoute, tout de suite, quand j'ai vu sortir ça hier, les données qui sont sorties de Desjardins en circulation par un employé, tout de suite, je pensais à toi.
Eh bien, c'est juste normal, Robert, parce que c'est de fait longtemps qu'on en parle de situations comme ça. Et ce qui arrive, ce qui devait arriver, arriva. Et de cette façon-là, ce qui arrive, c'est un constat de la réalité où on ne peut pas laisser les données sans les surveiller. Et de cette manière, les gens réalisent que n'importe quelle institution n'est pas à l'abri de se faire pirater l'information.
Ouais. C'est ça, ils sont pas à l'abri. Là, maintenant, tu vois aller les choses. Comment ils vont pouvoir s'assurer que les données ne seront pas répandues un peu partout à travers la planète?
Déjà là, ils ont identifié. Malheureusement, le mal est fait. Vu que ça a été déposé dans le dark web, c'est là que ceux qui ont été vite ont été capables de mettre la main là-dessus. Et les gens, malheureusement, l'étape est on est à l'étape de surveiller qui va en profiter, c'est-à-dire qui va s'en servir contre les gens. Heureusement, Desjardins a annoncé que le plan de protection va être de 5 ans pour les membres de Desjardins, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le groupe Equifax va pouvoir surveiller le dossier de crédit des membres Desjardins et s'assurer, aider les gens si jamais il arrive une situation malencontreuse, que les informations sont utilisées contre eux dans un contexte de fraude. Alors, à ce moment-là, Equifax va pouvoir aider les gens à se sortir du trouble si jamais c'est le cas.
Tu sais, puis c'est bien difficile de modifier certaines informations. Ton numéro d'assurance sociale, c'est impossible. On pourrait pas modifier le numéro d'assurance sociale de tout le monde. Ça, c'est impossible.
Ça se peut, mais ça prendrait un gros effort et ça coûterait énormément cher et ça créerait surtout une confusion. Parce que la personne qui vient, mettons, en institution avec un numéro d'assurance sociale renouvelé ou changé, et il y a une demande parallèle qui arrive en même temps, C'est là que je te parle de confusion. Qui qu'on croit là-dedans? Fait que c'est là que il y a un élément qui m'échappe technique au niveau de la gestion de ces numéros d'assurance sociale-là, mais je crois que ça serait très difficile de les migrer tout simplement de l'autre côté, autrement dit, avec un nouveau numéro d'assurance sociale.
OK. Je posais la question tout à l'heure à un de mes invités. Quel genre de fraude, quel type de fraude il va falloir surveiller?
Tout ce qui peut arriver, Robert, par téléphone, texto, courrier électronique. Quand je parle par téléphone, ça veut dire que quelqu'un appelle à la maison, comme souvent les gens se font donner un appel téléphonique et les gens se font passer, les malfaisants se font passer par soi des gens de la GRC, du service de Revenu Canada, Revenu Québec, et même des agences de collection. Donc, ces gens-là, tout simplement, veulent ébranler la confiance des gens, veulent lui faire peur pour qu'ils puissent, à ce moment-là, donner de l'argent. Donc, souvent, ça va être des petits montants demandés. Au même titre que par courriel et même par texto, de simplement cliquer sur un lien va venir contaminer le téléphone. Et à ce moment-là, les gens sont chantés. C'est tout le même scénario, mais là, ça va être encore plus vrai parce que ça va être avec des données de Desjardins qui peuvent potentiellement s'en servir pour arnaquer les gens. Et même si c'est pas avec des données de Desjardins, Robert, juste parce que les gens sont aux aguets présentement, ben tout le monde va s'attendre à ce moment-là à se faire solliciter. Et là, si un faussaire s'annonce comme étant quelqu'un de Desjardins, puis pour les aider, ou venez donner un exemple réel, voici, je suis un agent Desjardins, on vient de m'informer que votre dossier a été compromis, on peut vous aider, tout ça, faisons des vérifications ensemble, ça va à ce moment-là mettre les gens peut-être sur la défensive, et ils vont vouloir tout de suite assurer que le compte est correct, alors que ce n'est pas la façon de faire. Les gens doivent se présenter chez Desjardins, demander à Desjardins pour qu'ils puissent à ce moment-là régler toute ambiguïté.
OK. Toi, tu recommandes bien sûr à tout le monde d'aller sur le site de Desjardins et d'aller voir d'abord si nos données sont en circulation et de s'inscrire. Il faut le faire. Je me demandais d'ailleurs, Steve, pour quelle raison est-ce que ça ne va pas de soi qu'on est obligé de s'inscrire?
Là-dessus, c'est une bonne question, Robert, parce que le microsite que Desjardins a créé, il y a quand même un peu d'informations qui permet aux gens d'avoir l'idée qu'est-ce qu'il y en est, mais je crois que ça doit être pour une raison de s'assurer qui s'inscrit, c'est la bonne personne, parce qu'en même temps, les personnes qui vont s'inscrire vont être documentées l'adresse IP, donc l'adresse Internet à partir de laquelle ils vont faire cette demande-là, et ça va donner un gage aussi de contre-vérification Desjardins. Moi, je le vois d'un point de vue technique, pourquoi qu'il le ferait comme ça. D'un point de vue administratif, ben, c'est peut-être juste pour s'assurer que bel et bien les bons membres s'enregistrent pour les bonnes informations.
Ça, c'est une catastrophe pour Desjardins, là.
Ben, c'est un événement très important parce que la catastrophe, là, Robert, moi, je la décrirais comme ça si les mots de passe et les NIP auraient été compromis aussi. Ça, okay. Pour moi, c'est une catastrophe. Okay. Maintenant, c'est comme toute autre entreprise au pays, l'information, elle a fui, l'information est compromise, donc c'est un parmi plusieurs dans ce cas-ci, et ça paraît plus grave parce que c'est proche de nous, alors qu'on s'en est parlé à plusieurs reprises, il y a d'autres situations, d'autres compagnies à travers le monde avec qui ça est arrivé, et parce que c'est à l'autre bout du monde, on dit « Ah, c'est quelqu'un d'autre », mais là, c'est chez nous, c'est nos affaires qui se font toucher, c'est pour ça que ça a un petit sens d'urgence un peu plus important.
OK, puis ça va le prendre du temps avant de nettoyer tout ça?
Ben, nettoyer. Ils ont déjà pris des actions positives pour faire les changements qui s'imposent. Autrement dit, restreindre l'accès pour s'assurer que ça ne recommence pas. Et le mal est fait. L'information, elle a fui. Donc, ça revient aux gens de vraiment prendre connaissance de la menace de qu'est-ce qu'on jase ce matin. Et à ce moment-là, pour porter attention et ne pas tomber dans les pièges qui vont se présenter à eux autres.
Merci beaucoup, Steve.
Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.
Alors, il est un spécialiste dans le domaine des technologies de l'information, spécialiste en sécurité, Steve Waterhouse. Allez voir ça. Je peux encore aller voir ça. Par curiosité, je vais y aller plus tard, peut-être aujourd'hui. Écoute, c'est beaucoup de monde, là. 2 900 000 membres.